Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici.
Bonjour, bah bienvenue.
Bonjour.
Entrez.
Ah salut Florian, comment vas-tu?
Bah écoute, pas mal, comme un mardi.
C'est sympa chez toi, c'est dense.
Ouais, c'est dense, ouais, exactement. Et moi je suis un grand disciple du chaos et de toutes les théories qui vont avec et c'est assez utile à ma vie artistique en général parce que du chaos naît toute chose, comme on sait.
Alors c'est du chaos mais musical quand même parce qu'il y a une platine tourne-disque, il y a un ampli, évidemment il y a des enceintes et il y a évidemment des disques vinyles.
Et oui.
Alors les premiers disques qu'on voit quand on arrive c'est Duke Ellington.
Ouais.
Il y en a quelques-uns quand même.
Ouais carrément.
C'est quelqu'un qui est important pour toi?
Oui, j'oserais dire si je me permettais... Je pense que c'est quelqu'un qui est important pour tout le monde. Mais ouais, bon, je pense que c'est une des grandes figures de ce style vaste musical qu'on appelle le jazz. Et bah oui, c'est un génie absolu, assez prolixe aussi. Il nous a donné beaucoup de disques, donc c'est très agréable. Et une grande liberté de composition notamment. Et puis c'est un pianiste assez sobre et assez goûtu, donc j'aime assez. C'est vraiment je me retrouve dedans. Je suis pas en toute humilité, mais c'est le genre de musicien et de pianiste que j'aime parce que très bon compositeur. Et au jeu de piano de groupe, d'ensemble, de soutien, plus que vraiment de virtuose. C'est un pianiste de groupe, quoi. Et aussi, à cause de mes lacunes et de mes faiblesses et de ma paresse, c'est une place dans laquelle je me retrouve bien aussi moi dans ma vie musicale parce que n'étant pas vraiment un virtuose, je préfère jouer avec les copains et Duke Ellington c'est vraiment même si c'est son nom, même si c'est un arrangeur de dingue et un compositeur et qu'il est capable de tout faire tout seul, il a fait très rarement tout seul. Et donc il est toujours très bien entouré et si possible avec plein de monde et parfois peu, et je pense notamment au magnifique disque avec Coltrane où là c'est vraiment toute petite forme très intime et il excelle aussi là-dedans, c'est un impulse, c'est sublime.
Ouais. Parce qu'il a couvert 60 ans, 70 ans de carrière presque, ouais. Duke, il a quand même abordé plein de styles et de formations. Toi, tu as une préférence, par exemple, est-ce que tu aimes bien toutes les suites qu'il a fait en fin de carrière, espèce de...
Ah, j'adore.
Un truc orchestral à thème, avec des compos, des arrangements.
J'adore. Non, j'adore. C'est... Justement, bah, parce que là, c'est un peu sa chapelle Sixtine, quoi. Il a mis tout dedans. Donc après, c'est dense à écouter. C'est des beaux voyages. Il faut être patient. Il faut avoir l'esprit libre et libéré pour pouvoir s'y plonger à fond. Mais il y a tellement d'idées Et il y a tellement de choses à prendre dedans que je pense que pour tout mélomane ou pour tout musicien, et surtout pour tout apprenti musicien, c'est vraiment des mines d'or, quoi. Parce que là, il y a vraiment à chaque... Il y a des trouvailles en arrangement et en composition à chaque mesure, c'est
incroyable. On est pas loin de la masterclass à chaque disque.
C'est incroyable.
Moi, ça s'est concentré surtout en fin de carrière, fin 60 et courant 70.
C'est ça.
Il y en a eu un paquet. Ouais.
C'est toute cette période-là où tout est abouti. On sent que son trait, comme on dit en peinture, est précis, est fixé. Il sait exactement ce qu'il veut jouer, ce qu'il veut dire. Et surtout le son qu'il veut aussi. Parce que c'est un paramètre qui, pour moi, est très, très important. Parfois, un peu laissé de côté par notamment la plus jeune génération des jazzmen ou des musiciens qui ont, c'est vrai, tellement, tellement, tellement de choses. Et un siècle de musique enregistrée sur disque à travailler, à découvrir, à apprendre, que la partie production et sonore et enregistrement parfois est un peu laissée de côté, et on a tendance à enregistrer cette musique comme elle vient, parce que c'est comme ça qu'elle est pensée, qu'elle doit être faite. Mais on oublie justement que, notamment à cette époque-là, il y avait des ingénieurs du son de génie, type, pour en citer qu'un, Rudy Van Gelder et son studio, qui a fait notamment les belles heures du label Blue Note, et qui était vraiment un orfèvre du son. Et c'est pas par hasard si 90% des disques de jazz qui vont rester et que tout le monde écoute et écoutera, sont sortis de ce studio et des mains et des oreilles de Rudy. Et voilà, c'est un message pour à tous les musiciens, à tous les artistes. Prenez-vous la tête sur le son, pas que sur les notes.
Alors, il y a d'autres vinyles là qui sortent. Ils sont faciles à voir. Il y en a un qui est facile à voir, c'est Quincy Jones.
Ouais.
Quintessence.
On peut dire le boss de ce qu'on appelle la pop culture aujourd'hui, puisque c'est lui qui a réalisé notamment Thriller de Michael Jackson, qui est, si ce n'est le best-seller de l'histoire de la pop de l'humanité, ou un des trois selon qu'on pense groupe ou artiste. Ouais, très fort le Quincy. Et merci.
Et alors, je tombe sur un disque, un artiste que j'aime beaucoup aussi, Patrice Rushen, pianiste. Ah. Et puis, on parlait justement de l'avènement de l'électrique. Voilà quelqu'un qui a bien contribué.
Exactement.
Prelusion, après, c'est disque, c'est le titre du disque.
Patrice Rushen, ouais, j'ai eu la chance de la rencontrer et puis d'échanger beaucoup avec elle. Et aussi de lui faire écouter ma musique et d'avoir ses retours, ce qui était vraiment incroyable. Et
Là, tu parles du quintet, pardon.
Ouais, je parle du Florian Pellissé quintet.
Ok. pour les intimes.
FPQ, ouais.
Flo, on arrive à la première question. Donc, alors, qu'est-ce que t'écoutes comme musique, peut-être du moment, ce que t'écoutes en ce moment, qui soit pas forcément ta ref ultime, mais en ce moment, là, t'es sur... T'es sur quoi ?
Alors en ce moment, mais ça c'est par rapport à ce qu'on s'était dit l'autre jour, ou je dis ce que je veux.
De toute façon, ça change rien.
Ouais, ça change rien.
Je dis toujours
ce que je veux. Alors qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? J'écoute beaucoup un morceau d'une jeune chanteuse que vous devriez découvrir si vous connaissez pas, qui s'appelle Rihanna, qui est très jolie femme. Par ailleurs, et chanteuse incroyable et performeuse, et elle a fait une reprise d'un morceau que j'aimais déjà beaucoup, composé et chanté par Tame Impala, qui est un artiste australien que j'adore, qui est un génie de la production. Donc c'est lui, c'est de la, c'est quand même, on est quand même sur de ce qu'on appelle de la pop, mais de la pop très esthétisante et très intelligente. De la belle pop, on est sur de la qualité, on est sur un beau produit. On est sur une pop bio avec bah c'est lui qui joue quasiment tous les instruments d'ailleurs sur ses prods.
Bah on va pouvoir s'en rendre compte en écoutant le titre.
Un genre de Lenny Kravitz australien blanc avec souvent une voix au perché quoi, il chante souvent avec sa voix de tête comme on dit, et il fait des productions vraiment magiques. Alors je sais pas quel champi il trouve en Australie pour faire des morceaux aussi dingues, parce que c'est quand même impressionnant. Justement, on parlait de Quincy Jones tout à l'heure, mais c'est quand même très dur de faire de la bonne pop, quoi. La pop, c'est souvent pas très bon, quoi. Et donc, quand au milieu de tout ce marasme de trucs prêts à déguster, prêts à digérer, prêts, faciles à écouter, t'as un truc intelligent qui passe et tu fais « waouh ». Et donc, et c'est pas Rihanna, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, c'est le cas de le dire, donc, parce que Tame Impala, en termes de puissance de frappe et de business, et ça, il a quand même pas l'audience de Rihanna. Et donc, eh ben, elle a tout simplement repris le morceau tel quel, sans rien changer. Juste, elle a rechanté la voix de tête de Tame Impala en version Rihanna. Donc, c'est exactement le même morceau. D'ailleurs, je préfère presque la version de Tame Impala, mais comme j'ai besoin de me détendre, et quand j'écoute la version de Rihanna, je peux penser à ses yeux notamment, parce qu'elle a des yeux incroyables. Et ce morceau est fabuleux. C'est un vrai voyage, c'est une espèce de perfection, justement, presque quincienne, quoi, de pop, où chaque élément, et c'est ça qu'il y a de bien dans la production et dans la pop, c'est qu'on peut, et c'est ça que Quincy avait très bien compris. C'est qu'on peut s'amuser à vraiment aller chercher dans l'efficacité absolue de rien laisser au hasard. Et moi qui suis vraiment un chantre du contraire de ça, je suis fasciné quand les gens ils arrivent à cette perfection-là, parce que je pense que moi j'y accéderai jamais. Donc c'est un monde qui me fascine, quoi. Chaque son vraiment à sa place. La production est incroyable. C'est pas du tout claqué au sol, quoi, comme disent les Jones. Le pont, il y a un pont, le bridge, le pont du morceau, pour ceux qui ont eu la chance de pas connaître ce morceau et qui le découvriraient aujourd'hui. Le pont, le milieu du morceau, il va dans un endroit qui n'existait pas avant dans l'histoire de la musique. C'est-à-dire que là, il nous emmène. Il y a une marche harmonique, il y a une modulation qui est folle. C'est-à-dire que c'est un pont unique dans l'histoire de la musique. Il n'y a aucun autre morceau de l'histoire de l'humanité qui fait ce qui qui passe par ce passage secret d'un monde harmonique à un autre. Ça me fait un peu penser à, pour les anciens qui ont joué à Pac-Man dans les bars, dans les salles d'arcade, il y avait dans Pac-Man, au milieu du tableau, il y avait un tunnel qui allait à droite ou à gauche selon, et qui permettait de passer directement d'un côté ou l'autre du tableau. Et je crois, dans mon souvenir, les fantômes n'ont pas accès à ce tunnel, c'est un passage secret. Et moi, ce pont, il me fait exactement ça. C'est-à-dire que et j'ai fait exprès de ne pas l'étudier parce que j'ai pas envie de connaître le secret, alors que je pourrais tout simplement le relever et essayer de faire pareil dans mes futurs prods, mais j'ai pas envie de comprendre la marche harmonique parce qu'elle est tellement folle, elle est tellement belle, j'ai envie de la laisser intacte et de jamais la comprendre parce que j'y comprends rien. À chaque fois je me fais avoir et je fais waouh, mais vraiment comme ça, j'ai l'impression de... ça me fait comme une espèce de montée de LSD ou de champi instantané. Ça passe juste par la magie de l'invisible et les ondes musicales. Et comme ça, en fermant les yeux, tu traverses un océan en une seconde, quoi. À la vitesse de la lumière, il passe d'un monde harmonique à l'autre. Ce pont, il est fabuleux. Et le retour du pont, l'arrivée de l'autre côté de la berge, ou le retour au couplet est aussi fabuleux que le départ, quoi. La manière dont il nous ramène dans la chanson est incroyable. Donc voilà, je vous souhaite un bon voyage pour ceux qui auraient jamais entendu ce morceau. Bon, en même temps, la version de Rihanna, ça fait pas partie de ses hits, parce que ça reste quand même un morceau de pop intellectuel, j'ai envie de dire. C'est pas à la portée de toutes les bourses auditives, mais c'est quand même de la très 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 belle musique.
Et qu'est-ce que t'écoutes numéro 2, ça serait quoi alors?
Donc le all-time favorite.
Le premier track de l'album des Headhunters, qui s'intitule Caméléon.
I'm
justement, on parlait de Duke Ellington tout à l'heure et des morceaux foisonnants à tiroir avec plein d'idées, plein de parties, plein d'images, plein de voyages. Et ce morceau, il fait toute une face du vinyle, il fait 15 minutes. Donc déjà, sur une île déserte, si t'as qu'un morceau, s'il fait 15 minutes et qu'il y a 6 parties dedans, c'est mieux. Et c'est un morceau incroyable. Moi, ça a été, je crois que, on parlait de Same Old Mistakes, la rencontre avec Tame Impala tout à l'heure, et espèce de choc, le choc pop que j'ai pu vivre en entendant ce track. Et là, ça s'est passé. Je suis rentré. Là, c'était pareil, le passage secret ou la porte. Là, c'était plutôt une ouverture sur ce style. Qui est devenu mon terrain de jeu favori, qui s'appelle le jazz funk, donc ce mélange de jazz acoustique à l'origine, mais comme on disait dans les années 70, qui s'est électrifié, et avec ce nouveau style, enfin, ou le style de l'époque qui était la funky music, ou la funk, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, ou le funk, le funk, certains disent. Et du coup, du funk souvent instrumental avec des musiciens de jazz qui improvisent, donc même principe un peu que les morceaux de jazz. Souvent quand même l'archétype, c'est un thème et ensuite des improvisations autour de ce thème, et plusieurs solistes ou pas selon. Et ils ont repris ce canevas-là, mais sur une rythmique plus binaire et plus funky, avec basse électrique et clavier, notamment pour les Headhunters, le groupe dont Herbie Hancock est le leader. Herbie Hancock, qui est mon pianiste et mon artiste, je vais pas spoiler, un artiste que j'adore. Et qui a traversé toute l'histoire du jazz et qui s'est baladé dans différents styles, ce qui en fait aussi un copain de la bande, d'ailleurs très 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 copain avec Quincy Jones notamment, pour continuer la boucle. Et donc les Headhunters, c'est pas eux vraiment les inventeurs du style, mais c'est un des premiers groupes à sortir une production dans le style, et surtout une production incroyable, parce que là c'est Columbia, et c'est un album où Herbie, là, il s'est vraiment posé la question du son de manière très très profonde, parce que c'est devenu l'album enseigne, je sais pas comment on dit, étendard de ce style là qui s'appelle le jazz funk. Et aussi parce qu'il est très très agréable à écouter et très facile à écouter, tant sa production est bonne et tant tout est limpide dans le son, alors que la musique, finalement, elle est quand même assez assez avancée et assez aventureux, et vraiment voire parfois
assez dense, assez,
et parfois très érudique, voire complexe, ouais,
même par si moment, c'est ouais, un ouais. Truc,
et ça reste dance floor par moment, tu vois, pendant 15 minutes.
Il y a une question qu'on voudrait te poser.
Je voulais savoir si tu avais l'occasion de croiser un artiste vivant ou malheureusement décédé, l'artiste qui t'a impressionné le plus, qui est ta star absolue, qui ce serait et qu'est-ce que tu aurais à lui dire ou à lui demander ?
La question qui devrait être la question que tous les ethnos musicologues et tous les chercheurs et tous les mélomanes, c'est la question. C'est l'équivalent de est-ce que Dieu existe ? Est-ce que Marie était vraiment vierge après la naissance de Jésus ? C'est l'équivalent, mais pour le jazz, il y a une seule question. Et si quelqu'un trouve la réponse, parce que j'avais la personne, je l'avais, putain, en face de moi, la personne qui pouvait me donner la réponse à cette putain de question ultime, tout le jazz, que même l'humanité se pose, c'est est-ce que une fois Herbie Hancock a jamais, ne serait-ce que jamais, une fois joué avec John Coltrane?
C'est la question que tu lui poserais. Un ange passe.
Juste, on finit par trois notes. Au Rhodes.
D'accord, parfait. Ok.
Et c'est dans la boîte. Quoi.
C'est Florian Pellissier.
Alors voici le jingle. Qu'est-ce t'écoute ? Qu'est-ce t'écoute ?
Voilà, qu'est-ce t'écoute, c'est terminé. Mais vous pouvez réécouter cet épisode sur radiocampusparis.org. Nous, on se retrouve mardi 14 janvier sur le 93.9 FM. Salut!